7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 8h43, merci d'être avec nous ce matin. Dans 10 minutes, ce sera la chronique de Ludovine de la Rochère et puis peu de temps après, l'analyse de Jean Messia, la chronique de SOS Chrétien d'Orient et la revue de presse de Gilles Brochard. Voilà, tout cela est un joli programme, donc il faut rester avec nous ce matin. Mais tout de suite, bien, nous retrouvons Jean-Luc Ganam.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et pour cette chronique, je retrouve Jean-Luc Ganam. Jean-Luc Ganam, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Vous êtes militant identitaire, conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu, on ne le répétera jamais assez, et puis porte-parole du mouvement Chouan. Alors aujourd'hui, eh bien, vous allez nous parler donc de ces communes qui ont été prises par la Nouvelle-France.
Oui, tout à fait. Et je voulais vous parler en particulier de Roubaix, parce que c'est la ville où je suis né. Nul n'est parfait. Et lorsque je naquis à Roubaix, il y a 31 ans de cela d'ailleurs, le FN faisait 24% des suffrages avec une liste emmenée par Jean-Pierre Gendron, sur laquelle figurait mon père. Mon père a été élu municipal à Roubaix, ce qui a été d'ailleurs pour moi un argument durant la campagne à Segré de dire aux gens, faites en sorte que votre ville ne devienne pas Roubaix. Et donc à cette époque, le FN faisait 24% des suffrages avec un slogan pour que Roubaix reste français. Voilà. C'était il y a donc plus de 30 ans. Aujourd'hui, le Rassemblement National à Roubaix, malgré une bonne campagne, puisque la candidate du Rassemblement National a mené une campagne de terrain avec un vrai programme qui avait été salué même par ses adversaires, c'est quand même rare lorsque l'on est candidat du RN, le RN n'a fait que 11% des voix. Voilà. Alors, pourquoi ? Mystère. La réalité crève les yeux à ceux qui veulent bien voir. La réponse, elle est toute simple, c'est que, entre-temps, en 31 ans, Roubaix a cessé d'être une ville française, précisément. Vous savez, le slogan du FN, pendant longtemps, c'était « Avec nous, avant qu'il ne soit trop tard », eh bien, il y a fort à craindre qu'à Roubaix, il soit trop tard. Entre-temps, 30% de musulmans environ dans la ville, 7 mosquées pour 100 000 habitants, plus certaines salles de prière, j'en ai recensé au moins 3, donc ça nous amène à au moins 10 lieux de culte musulmans, sans doute y en a-t-il d'autres. Et voyez-vous, rien d'étonnant à cela, puisque la démocratie, c'est la démographie. Et il y a 31 ans, lorsque ma maman a accouché à la maternité publique de Roubaix, les sages-femmes venez la voir dans sa chambre pour voir qui était cette blanche qui accouchait de son 6e enfant. Voilà. Parce que d'abord, il y avait déjà de moins en moins de blancs dans les maternités à Roubaix. Et a fortiori, lorsqu'on disait d'une dame qu'elle accouchait de son 6e enfant, on était persuadé assez logiquement que la dame était d'origine africaine. Donc voilà, ma maman plutôt a été une petite attraction déjà il y a 30 ans d'un point de vue de l'analyse démographique. Voilà. Et à Roubaix, c'est donc Guiraud qui l'emporte. Voilà, la gauche Gaza l'emporte sur la droite Couscous, dans une ville dont la décadence a été très largement accompagnée par cette même droite, puisque celle-ci a dirigé la ville ces 40 dernières années, alors pas de manière continue, mais durant au moins 20 ans ou 25 ans. Preuve, s'il en faut, on le voit à Paris avec l'opposition de papier de Madame Dati, que la droite ou les gens qui se font appeler la droite n'empêchent absolument pas la chute d'une ville ou d'une commune, puisque à partir du moment où l'on refuse de prendre en compte le facteur ethnique dans la politique, et puis j'y reviendrai, on n'empêche absolument pas le grand remplacement. Donc très naturellement, M. Guiraud exulte, sans comprendre que, comme Boyard à Villeneuve-Saint-Georges ou certains maires de gauche dans les régions parisiennes, son statut d'homme blanc le condamnera peut-être ou très probablement, on verra, à quitter un jour la mairie sous les youyou et les insultes de la part de populations que je ne décris pas, chacun aura compris au vu des scènes que l'on a vues tourner sur internet. En effet, il y a une constante historique qu'il ne faut pas oublier, comme l'a rappelé très justement Julien Rochdy, il n'existe aucune démocratie fonctionnelle sur le continent africain, à l'exception peut-être du Maroc, et encore celle-ci est encadrée d'une main de fer par la monarchie. Voilà. Sur le continent tout entier, la corruption est reine et les coups d'État se succèdent. Et voilà ce qui nous attend pour les villes grands remplacés, voilà ce qui attend les maires clientélistes. Je crois que c'est Damien Rieu qui disait voilà, il y a eu des maires clientélistes ou Sautarel, en tout cas la mouvance F de souche. Il y a eu des maires clientélistes durant des années qui ont cru que parce qu'ils donnaient les subventions aux bonnes personnes, que parce que ils faisaient un petit peu de favoritisme dans certains quartiers ou qu'ils faisaient des investissements dans certaines banlieues, ils continueraient à se maintenir. Mais la nature humaine est cruelle et les humains sont ainsi faits ils veulent des représentants qui leur ressemblent. Voilà. Lorsque les villes s'africanisent, les édiles aussi. Et comme tout ce qui concerne le grand remplacement, ce qui était autrefois du complotisme ou du racisme devient même un motif de fierté pour les tenants de la Nouvelle France. Par Nouvelle France, il faut comprendre d'ailleurs France africanisée. Ainsi, ou arabo-islamisée. Ainsi, la députée Rima Hassan a-t-elle publié un visuel sur lequel on voyait les mers noires de la France insoumise en mettant la fierté des nôtres. Voilà. Parce que il faut rappeler quand même, on me reproche souvent de racialiser le débat, mais il faut rappeler que je ne fais que constater là où une certaine fraction de la France insoumise se réjouit et pousse à fond la racialisation du débat public. Que veut dire ce tweet de Rima Hassan en réalité, la fierté des nôtres? Ce que ça signifie, c'est qu'elle est heureuse que les vieux élus blancs, les mâles blancs de plus de 60 ans, soient enfin remplacés par des gens issus de l'immigration, et pas de l'immigration polonaise ou italienne. Voilà.
D'ailleurs, pardon, ça fait penser à ce discours de Rima Hassan devant Mathilde Panot,
oui.
Qui expliquait qu'effectivement, pardon, les personnes issues de... Je sais plus comment elle le formulait exactement, mais en tout cas que les personnes racisées, finalement, n'avaient plus besoin de porte-parole blanc, oui. Et que désormais, il fallait... voilà, ils n'avaient plus besoin de tuteurs, et que désormais, il fallait qu'ils prennent eux-mêmes leur propre représentation en main.
Mais la révolution finit toujours par dévorer ses enfants, ou ses parents, ou ceux qui l'ont générée. Il faut relire le livre... les dieux ont soif, voilà. Et les dieux ont soif et n'en ont jamais assez, comme disait Georges Brassens, comme le chantait Georges Brassens, et ils n'en ont jamais assez, et ainsi le sort de Guiraud sera très probablement celui de tous ces élus socialistes ou de droite qui se sont succédés dans plein de villes islamisées durant des années et qui ont fini par se faire grand remplacer. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, que faire, que dire? Eh bien, j'invite tous nos auditeurs, et je crois que je vais continuer à le faire durant les 6 ou 7 prochaines années, si Dieu me prête vie, et même plus longtemps d'ailleurs, s'il est généreux, mais je crois qu'il l'est. Eh bien, il faut s'engager localement pour essayer d'inverser la tendance. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions, il faut d'abord voir ce que l'on voit. Bon, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie voient ce qu'ils voient, et il faut ensuite dire ce que l'on voit. Et la racialisation du débat public qui nous est imposée par la France insoumise, qui nous est imposée aussi par le réel, il faut le dire, doit se faire et doit s'accentuer. On ne peut plus se contenter des euphémismes que sont la dénonciation du communautarisme. Vous savez que l'on entend sur les plateaux télévisés où les gens arrivent dans leurs petits souliers pour dire bon, peut-être faut-il réduire l'immigration, peut-être faut-il lutter contre le communautarisme, peut-être faut-il assimiler les gens en prenant des accents là parfois un petit peu plus fermes. Façon Bruno Retailleau et son charisme d'homme de 51 kilos. Il faut arrêter avec tout ça. Il n'y aura pas d'assimilation. Personne ne le souhaite parce que ça va à l'encontre de la nature humaine elle-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des assimilations d'individus, mais l'on n'assimile pas des populations entières. Et lorsque les villes sont grand remplacées, il est évident qu'on n'assimilera pas. Donc il faut réfléchir. J'en avais parlé à cette antenne, on en avait parlé avec Julien Rochedy dans une émission également. Il faut réfléchir, si demain nous prenions la tête du pays, à comment gérer ce communautarisme, parce que il est le seul moyen, je crois, d'ensuite d'enclencher une remigration. Si on ment aux gens en leur disant « vous êtes intégrés, vous êtes assimilés », on ne les renverra jamais chez eux. Or, il faut les renvoyer chez eux. Il faut arrêter de les balivernes d'assimilation, etc. La réalité, c'est que être contre l'immigration... Mais en même temps contre la remigration, c'est exactement comme être contre le chômage sans vouloir réduire le nombre de chômeurs. Voilà. Si l'on dénonce pendant 40 ans l'immigration, eh bien une fois au pouvoir, il faut réduire le nombre d'immigrés. Et donc il faut réexaminer un certain nombre de nationalités. Et donc dans les villes grand remplacées, il faut organiser le communautarisme et faire en sorte peut-être de déchoir certaines personnes de leur nationalité. Après, les travailleurs et les gens, les honnêtes gens, etc., c'est pas parce qu'ils ne sont plus français qu'ils ont interdiction de rester en France. Mais disons qu'il faut, il va falloir trier, il va falloir racialiser le débat. Je vois pas comment le dire. Je sais que ça semble brutal, mais je ne vois pas comment le dire autrement.
Il y a un phénomène qui est quand même assez étonnant avec ces nouvelles municipales, c'est que on commence à avoir les premiers signes de la situation anglaise, où des villes entières, mais même des villes plus importantes, plus considérables que Saint-Denis ou Roubaix, en fait, sont désormais détenues par un pouvoir communautaire. Et d'ailleurs, on entendait le maire de Seine-Saint-Denis quand même expliquer que globalement, désormais, la ville, comme vous dites, était à eux, et on a l'impression qu'on a un avant-goût de ce qui existe déjà de l'autre côté de la Manche.
Oui, tout à fait. Nous étions du bon côté du Manche ou de la Manche, mais là, je crois que c'est terminé. Le maire de Saint-Denis, qui notamment a dit que, grosso modo, il ferait du tri dans la police municipale. Oui. Et j'ai vu passer également, alors, je ne sais plus dans quelle ville est-ce, peut-être pourrez-vous éclairer ma lanterne, un maire qui dit « si j'ai gagné, si nous avons gagné, c'est grâce aux Pakistanais ». Est-ce que vous avez vu passer ça?
Ah oui, alors j'ai vu passer ça, je me demande si c'est pas le maire de Vaux-en-Velin, il me semble, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas oui, voilà, et même qui fait un discours en pakistanais, justement, dans le but de remercier ses électeurs. Cela étant, comment vous expliquez le fait que la France ait résisté quand même pendant bien plus longtemps que l'Angleterre à ce nouveau phénomène?
Mais grâce au mensonge de l'assimilation, on fait croire aux gens...
Qui est donc utile.
Comment?
Qui est donc utile.
Mais non, pas du tout, parce que à la rigueur, moi, je m'en fous qu'il y ait des édiles d'origine africaine ou voilà, si vous voulez, je considère qu'en gros, à partir du moment où de toute façon ils sont majoritaires dans certaines villes, il est assez logique qu'ils les dirigent. Le clientélisme de certains blancs suffisait à ces blancs à se maintenir au pouvoir. Bon, ben voilà, c'est fini. Maintenant, il faut que les blancs des autres villes, dans les villes notamment où ils sont encore majoritaires, il y a 35 000 communes en France, voilà, c'est encore possible.
Oui.
Il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont devant les yeux une véritable invasion qui n'en est qu'aux prémices, que les blancs ne représentent que 8% de la population mondiale et qu'en France, peut-être qu'à l'horizon 2050, ils ne seront plus majoritaires, et que sans aucune haine, sans aucun racisme primaire, ils doivent tout faire pour s'organiser entre eux, pour maintenir leur mode de vie, leurs traditions, etc.
D'autant qu'on peut rappeler qu'avec l'exemple de Marseille, où Franck Alizio réalise tout de même 40%, on peut aussi penser au FN municipal en Seine-Saint-Denis dans les années 90, que même dans des villes où la bascule est en train de se faire, c'est également possible d'avoir un camp national vraiment fort.
Oui, mais j'attends de voir si le RN au municipal dans 6 ans ou 7 ans à Marseille réalisera les mêmes scores. La réalité, c'est que peut-être qu'il est déjà trop tard à Marseille. Oui. Voilà. Et dans ces conditions, il faut miser. Alors, il faut continuer à se battre dans les grandes villes, bien sûr, mais il faut miser à fond sur les communes moyennes et les petites communes. Et puis, il faut aussi, chers auditeurs, il faut avoir des enfants. Si vous voulez éviter la guerre civile et le grand remplacement, faites l'amour, pas la guerre. Ayez des enfants, de nombreux enfants. Il faut favoriser la famille. Il faut que la droite ait à niveau un discours qui ne soit pas uniquement ringard ou incantatoire sur la famille pour que la population de souche se perpétue. Voilà.
Merci beaucoup, Joël Granat, pour cette chronique dans laquelle on a pu voir vos conseils et apprendre que vous étiez roubaisien. Voilà. Mais comme vous le dites, personne n'est parfait. Merci beaucoup. Et puis, on vous retrouvera bientôt à notre antenne, au moins la semaine prochaine.
Merci, à bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et pour poursuivre cette émission, nous retrouvons Ludovine de la Rochère. Ludovine de la Rochère, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat de la famille et aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu, eh bien, comme d'habitude, de la famille, mais en commençant au niveau européen.
Oui, absolument. Alors, de fait, pour ce qui concerne les enjeux famille et société, chaque semaine apporte son lot d'événements assez inimaginables. Mais ils ne font guère la une des médias et c'est bien regrettable. En effet, ils sont le plus souvent fondamentaux, car ils mettent en cause la nature et la dignité de l'être humain. Cela ne veut pas dire, je le précise, que ce sont toujours de mauvaises nouvelles. Au contraire, puisque nous travaillons à ce qu'il y ait aussi des bonnes nouvelles. Alors, deux événements tout récents concernent justement les identités sexuelles et la procréation. Vous voyez, on est dans le fondamental. Le premier est un arrêt rendu le 13 mars par la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE. Il impose aux États membres, pour les documents officiels d'identité, de mentionner comme sexe ce que déclare la personne, c'est-à-dire son ressenti. Un homme qui se sent femme, par exemple, devra être déclaré femme sur sa carte d'identité et son passeport. Avec tout ce que cela implique pour les compétitions sportives, les prisons, etc., mais surtout la filiation et donc les enfants.
Mais alors, comment est-ce que la CJUE justifie cette décision ?
Alors, le prétexte sont les règles européennes RGPD pour toute base de données. Celles-ci, ces règles, sont principalement l'exactitude des données, la protection de la vie privée et le droit à la rectification. Donc, d'après la Cour, l'exactitude des données, c'est-à-dire la réalité, serait à prendre dans son contexte et non en tant que telle. Cela signifie qu'elle renvoie au ressenti de la personne à ce qu'elle vit. Ainsi, sa réalité, la réalité que ressent la personne, remplace la réalité, donc l'exactitude des données. Et comme la vie privée doit être respectée et que c'est très personnel, et que l'intéressé a le droit de faire rectifier ce qui le concerne, eh bien les États devraient donc modifier à sa demande la base de données de l'état civil et par suite fournir les documents d'identité tels que souhaités. Et donc cela pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Cet arrêt est scandaleux puisqu'il est évidemment purement idéologique. Le ressenti par définition, subjectif et même potentiellement mouvant, doit être pris en compte comme si c'était une réalité objective, constatable et stable. La Cour a même refusé que le fait d'avoir été opéré soit une condition au changement de sexe à l'état civil, comme c'est le cas dans certains pays, alors que cela permet de poser tout de même une limite à la volonté de l'individu. C'est en outre dans l'intérêt de l'enfant, car cela évite qu'un homme soi-disant enceint, c'est-à-dire une femme, soit ensuite déclaré père de l'enfant. Et il en va de même, par conséquent, de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est bien en cause. Mais de tout cela, la CJUE se fiche bien. Cet arrêt est inacceptable aussi parce qu'il ne respecte pas la souveraineté des États membres. Il est contraire au traité de fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, dont il ressort que la famille et les sujets de société ne sont pas de la compétence de l'Union européenne. Finalement, une telle décision caractérise une dérive de cette Cour de justice et plus largement une dérive de l'Union européenne.
Alors j'espère que la deuxième information que vous avez est plus encourageante que la première. Vous nous disiez qu'elle concerne la procréation.
Oui, heureusement, c'est en l'occurrence une bonne nouvelle survenue par ailleurs qui concerne la pratique des mères porteuses, autre sujet qui touche à la nature humaine et au statut de l'être humain. Il s'agit donc cette fois-ci de la conférence de La Haye. Alors contrairement aux apparences, ce n'est pas une conférence mais une institution internationale. Elle compte même 90 États membres. C'est elle, par exemple, qui a élaboré la Convention internationale de 1993 pour la protection de l'enfant dans le cadre des adoptions internationales.
C'est donc une institution fiable et sérieuse.
Alors, ça l'était jusqu'il y a quelques années. En effet, la Conférence de La Haye a mis en place en 2011 un groupe de travail dénommé Filiation Maternité de Substitution, c'est-à-dire Gestation pour Autrui. Et ce groupe de travail était chargé d'élaborer un instrument juridique international, en fait une sorte de convention, qui permettrait aux commanditaires d'enfants par GPA d'être considérés comme leurs parents par tous ses États membres. Ce qui revient à valider le principe de la GPA et même à faciliter le recours à cette pratique. Autant dire que les militants de la GPA n'auraient même plus vraiment besoin ensuite d'obtenir sa légalisation officielle dans l'ensemble des pays. Alors, le syndicat de la famille a été auditionné à La Haye à ce sujet et reçu à plusieurs reprises au ministère de la Justice, en France donc. Car toute honte bue, la France a fait partie de ce groupe de travail depuis sa création et jusqu'à maintenant, elle y était représentée par un conseiller du ministère de la Justice. Et cela en dépit des affirmations d'Emmanuel Macron suivant laquelle la GPA était sa ligne rouge. Alors la mission de ce groupe de travail était assez complexe du fait des différences de législation entre les 90 États membres. Mais en amont de ces questions de droit civil, ce sont avant tout, bien sûr, les aspects humains et éthiques qui devraient être considérés. Ce à quoi la conférence de La Haye répondait que ce n'était pas le sujet. Ce n'était pas son sujet. Ses dirigeants et les membres du groupe de travail refusaient donc de s'interroger sur une pratique qu'ils s'apprêtaient à faciliter. Autrement dit, que la GPA génère un trafic international d'enfants ne les concernait pas. Qu'elle consiste à exploiter des femmes ne les faisait pas hésiter. Que des agences et commanditaires disposent à leur guise d'êtres humains n'était pas leur affaire. Que les liens mère-enfant soient tenus pour rien ne les regardait pas. Stupéfiant. Et pire, parce qu'elle voulait absolument parvenir à son but, la conférence de La Haye avait prolongé plusieurs fois le mandat de ce groupe de travail, celui-ci peinant donc à aboutir. Finalement, sous la pression constante et convergente d'associations de divers pays qui avaient alerté leur gouvernement, à laquelle s'est ajoutée la prise de position d'une rapporteure spéciale de l'ONU sur la GPA, la conférence de La Haye a annoncé mi-mars qu'elle mettait fin à ses travaux.
C'est donc une très bonne nouvelle.
Oui, alors à double titre. D'abord, parce qu'on a évité une convention internationale qui aurait facilité ce trafic international d'êtres humains et donc augmenté concrètement et de manière très importante le nombre de femmes exploitées et le nombre d'enfants séparés de leur mère et vendus à des tiers. Mais aussi parce que, de ce fait, le regard de notre société sur la dignité humaine, sur le statut de l'être humain, ne connaîtra pas, en tout cas pas du fait de la conférence de La Haye, ne connaîtra pas un recul majeur en considérant que l'on peut réduire la femme au statut d'incubatrice, l'enfant à celui d'un bien et la maternité à une prestation. Ainsi, vous le constatez, ces combats ont parfois des issues heureuses. Et il est tout de même bon de le savoir. Mais vous pouvez aussi le constater, ces combats restent incessants. Parce que si la conférence de La Haye a renoncé, une autre institution internationale, et je pense à l'Union européenne, tentera vraisemblablement à son tour, demain ou après-demain, d'aller en ce sens. Et c'est bien pourquoi ces combats sont amenés à tous les niveaux, national, européen et international. C'est donc ce que fait le syndicat de la famille, qui est d'ailleurs organisme consultatif à l'ONU.
Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ligne droite. L'analyse.
Et comme toutes les semaines, nous recevons Jean Messia pour son analyse. Jean Messia, bonjour.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour aux auditeurs.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler de divers sujets. Vous écrivez beaucoup de tribunes, notamment ces temps-ci, et vous en écrivez alors dans Valeurs Actuelles, par exemple, et donc, vous parlez de la Nouvelle-France. Alors, la Nouvelle-France, on a pu l'observer un petit peu gagner certaines villes durant ces élections municipales. Je pense d'abord à Saint-Denis. Saint-Denis, ville dans laquelle le maire, donc Bali Bagayoko, maire LFI, a emporté la ville. Quelle a été votre réaction ? On imagine que c'était pas tout à fait de la surprise.
C'était pas tout à fait de la surprise parce que, vous savez, on m'a beaucoup brocardé ces derniers temps pour avoir forgé le concept de contrefaçon identitaire ou de français contrefait. La Nouvelle-France est en réalité une France contrefaite. Contrefaite à la fois par l'immigration massive et de longue durée, puisque nous avons sur un demi-siècle des centaines de milliers de personnes qui entrent sur notre territoire, mais également, et on le dit moins, par une politique de naturalisation totalement délirante et ubuesque qui consiste en réalité à grimer en français, administrativement, des gens qui n'ont objectivement rien à voir ni avec la France, ni avec les Français. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, puisque j'écoutais hier une interview de Bali Bagayoko sur LCI, où lui-même disait que ce n'était pas un Français assimilé. Mais en fait, Français assimilé, c'est un pléonasme. Quand on a la citoyenneté d'un pays, on est forcément assimilé à son identité.
Oui.
Si vous voulez, cette dichotomie totalement artificielle qui résulte en réalité d'une dislocation entre la citoyenneté et l'identité, monstre, à créer des monstres, des peuples entiers sur notre sol qui, bien qu'administrativement français, ne se sentent ni allégeance, ni encore moins loyauté vis-à-vis de la France. Et donc, ce qui s'est passé à ces élections municipales, c'est l'arrivée fracassante dans le monde des institutions et les élus de cette France contrefaite, en quelque sorte, de ces gens qui portent la nationalité française, qui les autorisent à voter et à être élus, mais qui eux-mêmes disent qu'ils ne sont que des Français intégrés. C'est-à-dire, c'est des Français intégrés, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ce sont des Français qui, effectivement, sont des honnêtes gens. Il n'y a pas à tortiller là-dessus. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils ont leurs enfants dans les écoles, ils ne posent aucun problème. Mais ça, je dirais, c'est le minimum. Moi, si je vais au Brésil et que je respecte les lois brésiliennes et que je paye mes impôts au Brésil, ça ne fera pas de moi un Brésilien pour autant.
Et oui.
Donc, l'assimilation, c'est un autre stade. En fait, et je termine et je vous laisse la parole, le problème, si vous voulez, c'est que nous avons, pendant ces 50 dernières années, au départ, l'assimilation, c'était quoi ? C'était de dire à l'immigré, deviens ce que nous sommes.
Mmh.
C'est le processus dont j'ai bénéficié, moi, qui n'a pas été, encore une fois, un processus facile, mais qui était un processus indispensable si l'on voulait être français. Si tu veux être de nationalité française, il faut d'abord que tu sois d'identité française. C'était ça, le deal. Et ensuite, il y a eu l'intégration, parce que, évidemment, quand l'immigration se massifiait, il n'était pas possible d'assimiler des peuples entiers. Donc, on a réduit nos ambitions et on a dit à l'immigré, reste ce que tu es, c'est-à-dire l'intégration. Fous pas le bordel, essaye de participer à la vie de la société, mais tu peux rester ce que tu es.
Oui.
Pas la peine de t'assimiler à l'identité française. Et nous sommes aujourd'hui dans une gradation mortifère qui consisterait presque à dire aux Français devenons ce que vous êtes,
oui.
Une forme de désintégration nationale.
Et Jean Messier, ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que la nationalité française était autrefois une possibilité conditionnée par des devoirs, et qu'aujourd'hui, c'est un droit. C'est-à-dire que, quelque part, tout le monde a le droit à devenir français, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il fait, non. Mais en tout cas, c'est devenu un droit à revendiquer, comme le droit d'asile, comme si c'était en fait simplement... comme si être français, c'était simplement une composante légale de l'immigration.
Oui, ou c'était un droit parmi d'autres.
Oui.
Voilà, ce n'est plus un droit exorbitant qui requiert une acculturation... qui requiert, un incrément qualitatif de la part de celui qui aspire à être français. Non, c'est devenu une espèce d'horizontalité. On a le droit à la nationalité française comme on a le droit à une aide sociale.
Oui.
Bon, moi, je m'inscris totalement en faux contre cet objectif. Rappelez-vous cet immigré clandestin qui avait sauvé un enfant qui était pendu à un balcon.
Oui.
Je n'ai plus son nom en tête. Et à l'époque, il y avait eu un débat parce que, Évidemment, Emmanuel Macron, qui ne rate pas une occasion de distribuer la nationalité française telle des haribots à des enfants, avait dit « oui, on va en faire un citoyen français
».
Qu'on légalise sa présence sur notre sol pour récompenser son geste héroïque, bien sûr. Mais la nationalité française, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui se mérite, c'est quelque chose qui s'attribue après un processus dûment vérifié d'acculturation, d'identité. Parce que vous savez, dans le mot identité, il y a le mot identique. Alors évidemment, ce n'est pas identique, contrairement à ce que croient certains imbéciles. Il ne s'agit pas d'être identique au plan physique.
Oui.
Quand vous êtes noir ou quand vous êtes comme moi, moyen-oriental, vous n'allez jamais devenir un Alsacien ou un Breton ou un Lillois de manière physique. C'est une question d'identité, mais encore que... Évidemment, si vous avez des millions de personnes d'autres couleurs, comme disaient Marx et Engels, la quantité fait qualité. C'est-à-dire que quand vous avez des millions d'Africains ou des millions de Maghrébins sur notre sol, au bout d'un moment, évidemment, ce n'est plus qu'une question de couleur de peau, ça devient aussi une question identitaire, ou plus exactement alter-identitaire.
Oui, donc, en fait, d'une certaine façon, cette histoire-là, donc, vous décriviez, je crois que donc c'est Mamoudou Gassama. Exactement. Ce Malien qui avait sauvé effectivement Malia sans-papiers qui avait effectivement sauvé un enfant suspendu dans le vide au quatrième étage à Paris. Voilà. On a l'impression qu'en fait la nationalité française c'est un peu devenu comme la Légion d'honneur, c'est-à-dire que finalement c'est quelque chose qui a énormément perdu en valeur. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que l'inflation de naturalisation, de dons de la nationalité française, a complètement fait perdre sa valeur au fait d'être français. C'est ça qui est assez étonnant.
Bah, c'est pas étonnant, c'était volontaire. Hein. Mmh. Parce que je vous rappelle quand même que le système qui dirige la France et que je qualifie sous les lazis, les colibés de système anti-national, appelez-le système euromondialiste si vous voulez, c'est un système qui est, pour les plus optimistes, post-national, pour les plus pessimistes, anational. Il ne reconnaît pas la notion de nation et par conséquent, il ne reconnaît pas la notion de citoyen à une nation.
Et oui.
Vous savez, l'approche qui a été celle des élites françaises dirigeantes depuis une cinquantaine d'années, c'est une approche de marché. Les individus ne sont plus les citoyens, parce que quand vous êtes citoyen, dans la notion de citoyenneté, y est inclus une culture, une histoire, des racines, une éducation, une langue, une religion. Bon, on a voulu écréter la notion de citoyen, qui est une notion complexe, faite d'alluvions historiques extrêmement longues, d'identification à un passé, à des ancêtres, à des gloires, à des batailles, à des souffrances aussi. Eh bien, on a écrété cela et on a transformé finalement le citoyen en le dégradant à sa plus simple expression économique. C'est devenu un agent économique. Et les agents économiques sont interchangeables. D'ailleurs, oui. On l'a bien vu en Allemagne lorsque Angela Merkel a décidé d'ouvrir les frontières de l'immigration. C'était quoi la logique ? C'était de dire, le patronat allemand dit qu'il manque 2 millions de travailleurs allemands dans leurs usines. Bah, qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens, c'est pareil. Voilà. Eh bien non, c'est pas pareil, parce que, et d'ailleurs, on découvre hébété, les élites dirigeantes avec ces municipales découvrent hébété que l'individualisme méthodologique qu'on a essayé d'imposer à la France en atomisant la nation pour n'en faire qu'un agrégat d'individus d'homo economicus, d'agents économiques interchangeables, on découvre en réalité que les peuples qu'on a naturalisés et qu'on a eu le malheur de ne traiter qu'en tant qu'individus se sont reconstitués en fait en tant que peuple en oui. se drapant des phares de l'individualisme. Je vous donne un exemple. « Mon voile, ma liberté », disent les femmes voilées. Alors, les élites dirigeantes, mais c'est vrai ? Une femme, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Si, raisonnement purement individualiste. Sauf que, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est pas mon voile, ma liberté, c'est mon voile, ma liberté d'islamiser en silence. C'est-à-dire que se sont reconstitués des suprémacismes et des irrédentismes à l'intérieur de la nation française en utilisant et en instrumentalisant notre individualisme exacerbé pour créer sous notre nez et sous notre barbe, de nouveaux peuples qu'on n'a pas vu venir.
Et donc, on voit
l'éclosion politique à l'occasion de ces municipales.
Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que désormais, il devient même au niveau étatique, c'est-à-dire que au niveau médiatique, encore une fois, les choses sont en train de bouger. Mais je pense pas qu'on soit dans une situation de résistance médiatique comme on pouvait l'être il y a 5 ou 10 ans. On est plus dans une phase de conquête désormais. Mais même au niveau étatique, au niveau du débat public sur le service public notamment, ce qui est assez fascinant, c'est que les Français ont plus besoin de justifier ce que c'est d'être français que les étrangers les personnes d'origine immigrée à qui on donne un brevet de définition de la francité.
Bah oui, parce que si vous voulez, le problème c'est que il est difficile de comprendre que des gens qui sont français, qui sont même parfois et souvent nés en France et qui arrivent in fine à d'abord être électeurs grâce à la nationalité française, puis à être élu, vous savez, c'est une vérité terrassante que de croire de se convaincre de la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a fabriqué de nouveaux peuples qui, arrivés sur certains territoires et ayant conquis les institutions républicaines de ces territoires, sont dans une. Au départ, c'était un séparatisme identitaire. La loi antiséparatisme, ce n'était pas une loi antiséparatiste contre des institutions.
Oui.
C'était une loi antiséparatiste contre des individus, contre des groupes, contre un certain nombre de zones conquises, occupées par des gens qui veulent vivre à l'heure étrangère sur le sol français. Là, c'est une gradation. Là, le séparatisme concerne désormais les institutions. C'est-à-dire que ces dernières élections municipales ont consacré l'arrivée du séparatisme des territoires dans une forme de séparatisme institutionnel. D'ailleurs, vous regardez la gueule des conseils municipaux de ces nouveaux territoires conquis par les nouveaux peuples. Regardez les drapeaux qui sont agités, regardez les slogans qui sont scandés. Non seulement on n'est plus en France dans les rues françaises, ça on l'a souvent regretté parce qu'il y a des échoppes d'habits islamiques, des boucheries halal, des kebabs, etc. Là, on est à un autre stade. Là, ce sont ces rues-là qui arrivent dans les enceintes de l'administration territoriale de la République. Et le mouvement n'est pas prêt de s'arrêter parce que malheureusement ou heureusement, la loi fondamentale de la démocratie, c'est l'arithmétique électorale. C'est le nombre.
Et justement, Jean Messia, ce qu'on constate, c'est que ce nombre, finalement, fait gagner certaines villes. Ce qui est assez fascinant, c'est notamment, je pense, à la ville de Creil, donc connue il y a maintenant 30 ans, l'affaire du voile de Creil. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le nouveau maire, donc Omar Yacob, qui est donc d'origine pakistanaise, eh bien, quand il a gagné, une des premières choses qu'il a faites, c'est de remercier les Pakistanais et en parlant arabe, en disant voilà, Alhamdoulilah, c'est grâce à eux qu'on a gagné. En l'occurrence, il se cache même plus.
Ah, non, parce que vous savez, comment dirais-je, Creil est un symbole fascinant.
Oui.
C'est en fait en 89 le premier test de l'islam radical fait à la République française pour tester sa capacité de résistance. Face à Lionel Jospin. En réalité, Lionel Jospin, à l'époque, a louvoyé, il a refusé de prendre position, il a refusé de décider.
Ouais.
Il a même dit que c'était quand même compliqué de refuser des jeunes filles, des pauvres jeunes filles malheureuses, d'entrer à l'école en raison du voile. Il n'a pas compris l'enjeu sociétal, l'enjeu social, l'enjeu national majeur qui se jouait à l'époque par ce test. Et cette ville où il n'y avait que deux voiles islamiques en 1989 est aujourd'hui complètement islamisée, au point qu'ils élisent un maire racisé et islamisé. Donc vous voyez, ce processus est en réalité simple. La gauche fait venir par humanisme et bienveillance venir des peuples en ouvrant les frontières. Puis ces peuples, ils veulent en faire des électeurs parce que la gauche a perdu pied auprès de l'électorat populaire français qui est majoritairement dans le camp national maintenant. Donc ils veulent fabriquer de nouveaux électeurs. Ces nouveaux électeurs, au bout d'un moment, ils veulent des élus qui leur ressemblent.
Mais oui, on en parlait avec Jean-Yves Gana il y a quelques minutes, mais c'était le discours de Rima Hassan face à Mathilde Panot, je crois, à Bagneux, où elle explique que les racisés n'ont plus besoin de porte-parole blanc et que désormais, c'est à eux de se trouver leur propre représentant.
Oui, et d'ailleurs, vous n'avez pas vu son tweet, là, où elle affiche 6 maires noirs, et elle dit « la fierté des nôtres ».
Oui.
Donc, c'est qui les nôtres pour elle, à votre avis? C'est certainement pas les Français.
En fait, ce qui est assez amusant, c'est que cette gauche utilise un logiciel qui n'est absolument pas le sien à l'origine, qui est le logiciel universaliste qui refuse de voir la couleur de peau, qui refuse de voir l'origine et effectivement qui traite les individus comme des êtres économiques, qui est donc une vision libérale en réalité de la société, et la mettre au service de leur néo-marxisme.
C'est pire que ça, mon cher Alexandre. C'est-à-dire que quand vous louez l'arrivée de maires et vous leur attribuez des qualités découlant de leur seule couleur de peau, parce que c'est ce que c'est.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a vu de ces maires-là jusqu'à présent? Ils viennent d'être élus hier. Alors si dans un an, vous avez les mêmes qui disent « Waouh, il fait un travail extraordinaire en jugeant sur pièce et sur place, pourquoi pas ?
Oui, mais enfin, là, la première décision de Bali Bagayoko, c'est quand même de désarmer la police municipale à Saint-Denis, quoi.
Non, mais tout à fait. Mais je parle d'une situation théorique
oui.
où on aurait à juger quelqu'un, parce qu'après tout, vous, en face de vous ce matin, vous avez quelqu'un qui lui aussi est issu de l'immigration, mais qui n'est pas du tout dans ce logiciel-là. Donc, en fait, la qualité d'immigré n'est ni une tare, ni une qualité à idolâtrer à brûle-pourpoint.
Oui.
Comme vous dites, si l'immigré est un individu comme un autre, donc il peut être aussi un Français comme un autre, admirable Français comme un autre, ou alors, au contraire, quelqu'un qui est un haineux de la France comme un autre. Mais en tout état de cause, il faut juger les actes. Or, comme vous dites, l'extraordinaire mue de la gauche, c'est de juger les gens non plus en fonction de leurs actes, non plus en fonction de ce qu'ils font, mais en fonction de ce qu'ils sont.
Oui.
Et les derniers à avoir fait ça, excusez-moi, c'est pas pour réduire les choses et fasciser, mais excusez-moi, la lecture politique par la fenêtre raciale et racialiste, le dernier régime à avoir fait cela, c'est le Troisième Reich. Voilà. Et donc, la France insoumise, en racialisant et en ethnicisant le débat, quand Rima Hassan loue l'arrivée de maires noirs, est-ce qu'ils sont juste bien parce qu'ils sont noirs ? Est-ce que le maire blanc était nul juste parce qu'il était blanc ? On voit bien que et c'est une approche non pas raciale et racialiste, c'est une approche raciste. Et ce que je veux dire, pour terminer, c'est que la France racisée et islamisée qu'on nous a vendue depuis 50 ans n'est pas une France antiraciste. Ça n'est pas une France bienveillante et humaniste. La France racisée et islamisée, c'est une France raciste, eugéniste, qui dégage tous ceux qui sont blancs, tous ceux qui ne sont pas musulmans et tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des premières mesures de Bali Bagayoko. Parmi elles, il y a aussi la volonté de purger l'administration de la ville de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son projet. Donc, vous voyez, l'antiracisme a, au fond, promu le racisme, l'intolérance et la haine.
Et on en récolte les fruits aujourd'hui avec ces élections municipales. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec
Merci
nous
Alexandre.
Ce matin et peut-être que la semaine prochaine, si ça vous convient, on évoquera peut-être un parallèle avec l'Angleterre ou la Belgique où la situation est plus avancée. Merci d'avoir été avec nous Jean Messia. Tout de suite, on retrouve François-Xavier Jiquel pour la chronique de l'Orient simplifiée.
Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette chronique, nous avons le plaisir de recevoir François-Xavier Jiquel, directeur des opérations chez SOS Chrétiens d'Orient. Vous allez nous parler de Trump, François-Xavier ?
Absolument, Alexandre de Galzin. Et je vais aujourd'hui vous faire plus qu'une chronique, mais une fiche de lecture. En effet, beaucoup de ceux qu'on pourrait considérer comme conservateurs ou de droite en France semblent surpris ou choqués de voir un Trump non plus isolationniste, comme on aimait à le qualifier, mais se lançant dans des interventions toujours plus violentes, toujours plus impérialistes.
Alors comment expliquer ce décalage ?
Eh bien, en fait, déjà pour comprendre la pensée de Trump, il faut bien comprendre qu'elle a été édictée au travers de 5 livres, dont un seul, donc ces livres s'étalent de 2000 à 2021, et un seul a vocation à être un livre de campagne, à annoncer ses grandes lignes de campagne et ses grandes lignes politiques, Crippled America, que je tiens ici entre les mains. Alors moi-même, français, mes intérêts ne sont pas ceux de M. Trump, ni ceux de ses prédécesseurs, ni même de ses successeurs d'ailleurs. Je vais cependant tenter d'analyser sa posture géopolitique actuelle, non pas par une énième étude théoricienne de plateau dont on a tous soupé, mais simplement en reprenant son livre Crippled America, publié en 2015, et dans lequel il annonce clairement ses positions et ses objectifs pour ce qui deviendrait ses deux mandats à venir. Pour commencer, sortons des deux prismes d'analyse classiques, isolationnisme contre interventionnisme. Trump ne rentre dans aucune de ces cases.
Alors dans quelle logique faut-il le comprendre ?
Alors sa doctrine est ailleurs. Les États-Unis doivent être présents partout où leurs intérêts sont en jeu et se retirer partout où ils n'ont rien à gagner. C'est une vision transactionnelle du monde, sans habillage idéologique. Pour comprendre ces décisions récentes, il faut prendre en compte trois facteurs absolument fondamentaux chez Trump.
Lesquels ?
Alors le premier, c'est de reprendre le contrôle sur le continent américain, ce que les Américains considèrent historiquement comme leur arrière-cour, l'Amérique latine, mais qu'on peut même aujourd'hui étendre jusqu'au Canada, voire le Groenland, si on considère encore ça l'Amérique. Depuis la doctrine Monroe au 19e siècle, les États-Unis considèrent que toute puissance extérieure, hier européenne, aujourd'hui chinoise ou russe, n'a pas vocation à s'y implanter. Dans cette logique, le Venezuela n'est pas un dossier périphérique, c'est un point stratégique, un régime hostile soutenu par des puissances concurrentes aux portes des États-Unis, et ça devient inacceptable. L'intervention contre Maduro ne relève donc pas d'une croisade idéologique, mais d'un réflexe géopolitique classique, sécuriser son environnement immédiat et empêcher toute pénétration adverse.
Et au-delà du continent américain alors ?
Alors le second facteur, il est plus global. Maintenir la domination américaine dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire. Depuis la guerre en Ukraine, les équilibres internationaux évoluent rapidement. Le groupe des BRICS, et plutôt encore des BRICS élargis, qu'on appelait les BRICS Plus, cherche à proposer une alternative au système dominé par les États-Unis. Ça passe notamment par des tentatives de contournement du dollar. Or, le dollar n'est pas simplement une monnaie, c'est un instrument de puissance. Il permet aux États-Unis de financer leur économie, d'imposer des sanctions et d'exercer une influence mondiale unique. Pour Trump, toute remise en cause du rôle central du dollar est une menace stratégique majeure. Dans ce contexte, les conflits ne sont pas seulement militaires, ils sont aussi économiques, monétaires, systémiques. Ils s'inscrivent dans une rivalité de grande puissance, notamment avec la Chine. Dès lors, certaines décisions prennent un autre sens.
Comme par exemple l'Iran.
Alors l'Iran par exemple, très bon exemple actuel, qui n'est pas uniquement un adversaire régional, c'est un acteur inséré dans ces dynamiques globales, énergétiques, stratégiques et potentiellement monétaires. Le frapper, c'est à la fois affaiblir un adversaire direct, mais aussi envoyer un signal plus large à tous ceux qui contestent l'ordre international dominé par les États-Unis. C'est ce qui explique le paradoxe apparent. Dans Crippled America, encore une fois que je tire aux mains, Trump critique les Endless Wars. Je mettrai un euro dans le cochon, ne vous en faites pas. Les guerres sans fin. Il dit qu'il ne fera plus de guerres longues, coûteuses, sans bénéfices clairs et sans plan de retrait.
Alors comment expliquer son engagement actuel en Iran qui semble massif et sans issue claire ?
Eh bien, j'en arrive à mon troisième facteur. Vous disiez, jusqu'à présent, votre développement était absolument sans faille, François-Xavier Jiquel. Eh bien, il est toujours, puisque ce dernier point vient appuyer ma démonstration, la défense d'Israël. Et c'est quelque chose qui est vraiment oublié par les observateurs internationaux. Là encore, il faut revenir en arrière, dès 2015, dans Crippled America encore, Trump accorde un tiers du chapitre dédié à sa politique étrangère à l'Iran, et il écrivait « L'Iran était une nation puissante avant que des fanatiques religieux ne prennent le pouvoir. » Tant qu'ils seront au pouvoir, l'Iran restera notre ennemi et une menace pour l'existence d'Israël. Nous devons prendre cette menace au sérieux, allant jusqu'à préciser qu'il ne restera guère d'options à part une action militaire. Mmh. Autrement dit, dès le départ, Trump posait une exception majeure à sa logique. Il ne limitait pas la défense des intérêts américains au strict territoire des États-Unis, mais l'étendait explicitement au territoire d'Israël. Dans cette perspective, la guerre actuelle n'est pas un retournement, mais l'application tardive d'une ligne toujours annoncée. Éviter les guerres longues, sauf lorsqu'un intérêt jugé vital, ici la défense d'Israël, justifie une intervention plus lourde et durable. D'autant plus que cette décision interroge jusque dans son propre camp. Alors que la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a affirmé que le programme nucléaire iranien n'était pas relancé, contrairement aux déclarations de Trump, il ne semble plus que la dynamique actuelle repose uniquement sur une évaluation objective de la menace, mais également sur un alignement avec les priorités stratégiques du gouvernement israélien.
Donc vous dites qu'il n'y a pas de contradiction.
Alors sur ce troisième et dernier point, nous ne sommes donc pas dans une incohérence vis-à-vis d'une image fantasmée d'un Donald Trump seigneur de la paix, mais dans une exception stratégique assumée en faveur d'Israël, et même théorisée par une partie de la droite protestante américaine. Comme le rappelait en 2023 le puissant sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, dans un échange avec Tucker Carlson, je cite « Pour tout chrétien, et les États-Unis sont une nation chrétienne, le soutien à Israël relève d'une obligation biblique indiscutable ».
Merci beaucoup François-Xavier Jiquel pour cette chronique et tout de suite on va retrouver Gilles Brochard pour sa revue de presse.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre, bonjour Arnaud, bonjour chers auditeurs. Suite aux résultats des municipales, Valeurs Actuelles a voulu réunir dans une conversation les deux maires qui ont été réélus avec le plus fort taux de voix. En l'occurrence, il s'agit de David Lisnard, élu à Cannes avec 81% des voix, et Robert Ménard avec 65,6% des voix à Béziers. Et comme l'écrit dans son éditorial Tuc Dual-Denis, qui les appelle les affranchis, ils nous ont donné une vraie leçon d'indépendance. Il fallait un certain cran à David Lisnard pour choisir son chemin comme il l'entendait chez les Républicains, nonobstant son amitié sincère pour Bruno Retailleau. Il n'en fallait pas moins à Robert Ménard qui aura su déjouer le penchant parfois hégémonique du Rassemblement National.
Et parmi leurs points communs, il y en a un important, tous les deux sont des maires dans des villes pauvres. À titre de comparaison, le taux de pauvreté à Cannes est deux fois plus élevé qu'à Paris. Et comme le dit David Lisnard, si nous gagnons avec autant d'écart, si nous faisons voler en éclats les logiques partisanes dans nos communes, c'est peut-être parce qu'il y a un alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on est. Il ajoute direct, les consignes des partis politiques n'ont aucune prise sur les municipales. Face à une menace d'extrême gauche, face à une menace islamiste, wokiste, j'irai avec ceux qui sont en face, y compris le RN et toutes les forces démocratiques, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. À écouter Lisnard, on est loin des discours de Michel Barnier et consorts. Alors il va encore plus loin, réclamant une primaire de toutes les droites. Gérald Darmanin, Éric Zemmour, Sarah Knafo sont les bienvenus. Même une personnalité comme Nicolas Dupont-Aignan doit pouvoir s'exprimer. Il représente un segment électoral des électeurs qu'on aurait tort de mépriser. En revanche, Robert Ménard n'est pas convaincu du tout par une primaire. Pour lui, la politique, ce n'est pas un programme, c'est une personne, c'est une incarnation. Alors, le Figaro confirme donc que David Lisnard quitte les LR. Depuis le vote de confiance à François Bayrou, a-t-il déclaré, depuis l'abandon de la réforme des retraites, depuis les ambiguïtés sur le gouvernement, participer ou pas, je pense qu'il n'y a aucune lisibilité, aucune cohérence, aucune constance de la part de LR. Déterminé, écrit le journaliste John Dimsit, David Lisnard se dit convaincu qu'il faut une large primaire et fera tout son possible pour qu'elle soit organisée, indique son entourage. Au risque de se retrouver sur la ligne de départ de l'Élysée aux côtés d'Édouard Philippe et de Bruno Retailleau, et donc d'hypothéquer les chances de la droite d'accéder au second tour. Dans le même Figaro, on peut lire un long entretien de Jordan Bardella qui fait appel à la droite pour un vaste rassemblement. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'électeurs patriotes qui, pendant très longtemps, ont voté pour l'UMP ou LR, dit-il, et qui ne se reconnaissent plus dans ce parti politique. Le général de Gaulle avait raison, la France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est bien plus que ça. Évidemment que moi, j'inscris beaucoup de mes valeurs dans un ethos de droite, mais le Rassemblement National, c'est bien plus que cela. Dans Le Parisien, on apprend que la fameuse couronne d'Eugénie, vous savez, celle qui avait été volée au Louvre en octobre dernier, puis abandonnée par les braqueurs dans leur fuite au pied de la galerie d'Apollon, n'a pas subi encore de restauration. On sait seulement, selon Yves Jéglet, que dans un communiqué du musée, la couronne a été déformée lors de son extraction, suivie d'un choc violent sur le bitume qui a entraîné un écrasement. Et les 56 émeraudes sont intactes, et sur les 1354 diamants, 9 se sont désolidarisés, mais ont été conservés et une dizaine ont disparu. Alors la restauration de l'ensemble devrait commencer en avril, et un certain nombre d'analyses seront menées dans le laboratoire ultramoderne situé dans les sous-sols du Louvre. Selon l'enquête du Parisien, ce sont en réalité des malfaiteurs sans envergure, amis de quartier en Seine-Saint-Denis qui seraient derrière le cambriolage. Et quant aux bijoux, ils pourraient toujours être planqués quelque part dans ce même département. Et puis dans Paris Match, voilà, je cite l'incroyable retour de Céline Dion. Atteinte d'une maladie neurologique incurable, la diva retrouvera son public en septembre 2026 où pas à Munich, pas à Londres, à Paris. À Paris, la Défense Arena, et entre elle et la capitale, une histoire d'amour qui remonte à ses débuts de star. Elle avait alors 14 ans, la Ville Lumière lui sert à nouveau d'écrin pour ce qui est bien plus qu'un comeback, selon Paris Match, une renaissance. Et pour la France, un honneur. Alors, comme l'écrit Benjamin Locoge, elle repart à la conquête de son public avec des titres poignants, une voix au sommet et l'envie chevillée au corps. À noter qu'elle a pris le temps d'enregistrer des chansons dans un studio à Las Vegas, où elle vit, dont un titre écrit par son ami Jean-Jacques Goldman, qui sera diffusé courant avril. Mais je vais terminer cette revue de presse par une découverte spectaculaire qui n'a pas fini de faire parler dans le Landerneau culturel. En effet, exhumé en février dernier dans l'église Saint-Pierre et Paul de Maastricht, des ossements qui pourraient être ceux du mousquetaire du roi, le célèbre D'Artagnan, décédé il y a plus de 3 siècles, ont été envoyés dans des laboratoires pour analyse. C'est ce que révèle Le Parisien et Aujourd'hui en France. L'archéologue à la retraite Wim Dischmann, qui a creusé au sein de l'église et dont on voit la photo, a retrouvé une balle de mousquet. Et quand on sait que D'Artagnan a été tué le 25 juin 1673 lors du fameux siège de Maastricht, en recevant une balle dans la gorge, on peut penser qu'elle est bel et bien du mousquetaire. Les résultats des laboratoires sont attendus dans les prochains mois. Suspense, affaire à suivre donc. Et je vous souhaite une bonne journée.
Zone libre.
Bonne journée à vous, Gilles aussi. Et pour cette zone libre, nous avons 5 minutes. 5 minutes, c'est trop court, mais nous sommes avec Richard de Sèze, ce qui va nous faire passer ces minutes de manière encore plus courte, car nous buvons vos paroles. Qu'avez-vous à nous enseigner, Richard, ce matin ?
Je ne vous enseignerai rien, mais je pointerai la manière dont, courageusement, Bruno Retailleau, qui vient de perdre David Lisnard, a expliqué qu'un candidat macroniste ne pourrait pas être président de la République. Et ce qui semble rentrer de plein fouet contre les déclarations de Gérard Larcher d'il y a quelques semaines, comme quoi si Gabriel Attal est élu candidat de la primaire de la droite et du centre, des droites et du centre, évidemment, il faudrait tous se ranger derrière Gabriel Attal. Et donc Bruno Retailleau essaie-t-il à nouveau et désespérément de conquérir une certaine aura d'homme de droite où sont les derniers soubresauts de son parti moribond.
Ce qui est, vous l'avez très bien dit, bravo. Ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont en train d'organiser une consultation.
Merci,
pour
chef.
Savoir comment ils vont faire une primaire. C'est oui. La démocratie poussée à la démocratie bureaucratique, je dirais.
Et je crois d'ailleurs qu'ils ont prévu d'organiser une primaire pour savoir quels étaient les orateurs qui auraient le droit de se présenter à la tribune pour expliquer comment on pourrait organiser une primaire.
Oui, bah oui, mais tout à fait. Et j'espère que vous serez candidat.
Il y a une espèce de boucle rétroactive. Donc je pense que la primaire de 2027 est organisée depuis 1978,
ouais,
en fait.
Exactement. Oui, c'est très c'est beaucoup de prévisions et très peu de résultats. Magda Hautefeuille, vous avez un animal dont il faudrait parler aujourd'hui ?
Malheureusement, ça ne va pas être un animal.
Alors,
ça
on va passer à Maïlis
Claude. Beaucoup moins joyeux. Non, ce matin, je vous parlais de l'euthanasie. Et aujourd'hui, à 18h, Noélie Castillo est programmée pour recevoir l'euthanasie en Espagne.
Hey. Ah, oui.
C'est une jeune femme de 25 ans qui est donc originaire de Barcelone et elle est devenue paraplégique suite à une tentative de suicide en 2022. Et qui était survenue à la suite d'un viol collectif qui apparemment serait lié à des OQTF.
Oui.
Et donc voilà, après une procédure judiciaire de presque 2 ans, elle a obtenu donc l'autorisation légale dans le cadre de la loi espagnole de son euthanasie. Voilà, sa famille était très opposée.
Mmh.
Voilà, donc elle va mourir sous.
Et quelque part, la boucle est bouclée parce que d'une certaine façon, on a effectivement un acte abject, un viol collectif par l'immigration qui mène à une situation terrible, paraplégie, et qui mène à une tentative de suicide, à être paraplégique et donc à l'euthanasie.
Et donc à l'euthanasie à 25 ans. Voilà.
Et donc ça veut dire que la seule réponse légale en fait que l'Espagne est capable d'apporter,
c'est d'apporter
la mort plutôt que d'apporter la sécurité.
Exactement. Oui.
Voilà, c'est la nouvelle Europe.
C'est bien désolant.
On pourrait dire. Et vous, Maïlis Clozel, qu'avez-vous glané ?
Alors, moi, c'est plutôt pour inviter les auditeurs à veiller sur nos réseaux sociaux ce soir, puisque je me rendrai à une conférence organisée par Polémia, donc qui est le think tank identitaire de Jean-Yves Le Gallou, que nous recevons très régulièrement à notre antenne, chers auditeurs, et que vous connaissez très bien, qui nous dressera donc le profil des 200 familles de France qui dirigent la France. Voilà, donc il y a un peu des allures complotistes derrière ça, mais on verra bien ce que ça va donner. Je crois qu'on aura beaucoup de surprises. En tout
alors
cas,
n'oublions pas que les 200 familles étaient d'ailleurs la manière dont les communistes dénonçaient avant la Seconde Guerre mondiale le règne du grand capital en France.
Pas que les communistes.
Pas
Richard.
Que les communistes, pas mais les communistes aussi.
Oui, voilà. Mais pas que les communistes non plus. Je lisais récemment Notre avant-guerre, dans lesquelles on parle assez copieusement de.
Et voilà.
Robert Braziac parle assez copieusement de ces 200 familles aussi.
Comme quoi le fascisme a beaucoup de liens avec le communisme.
Et bah oui, tout à fait, mais la peste brune n'est pas encore sortie de la bête immonde dont le ventre est encore fécond.
et n'oublions pas que selon Bertolt Brecht, qui est l'auteur de cette formule, la bête immonde est en fait la démocratie libérale. Quand Bertolt Brecht dit le ventre est encore fécond de la bête immonde d'où est sortie, etc.
Ouais.
Ça, en fait, il désigne en fait la démocratie libérale et donc tous les régimes démocratiques d'avant-guerre qui ont censé avoir sécrété le fascisme. Et donc lui, Bertolt Brecht, en bon communiste, propose une dictature communiste pour faire en sorte que la bête immonde de la démocratie soit annihilée. J'aime beaucoup cette citation parce que les gens la citent toujours très mal à propos.
Eh bien, écoutez, vous venez d'enseigner, je pense, même à tous nos auditeurs voilà. cette...
Donc, n'oublions jamais que les communistes sont les fervents opposants de la démocratie.
Exactement. Eh bien, je
alors
pense
que David Lisnard, lui, pardon, excusez-moi.
Non, mais je pense qu'on conclura là-dessus parce qu'on n'a pas assez parlé des communistes ce matin. Merci beaucoup, chers auditeurs. Attendez une seconde avant de partir parce que nous devons vous dire quelque chose très, très vite, là, maintenant.
Là maintenant tout de suite, vous êtes sûr? Eh bien écoutez, allons-y, je vous invite évidemment, chers auditeurs, à nous soutenir financièrement, car Radio Courtoisie ne vit que grâce à votre générosité. Donc pour ce faire, eh bien rendez-vous sur soutenir.rc.fr et ainsi nous faire des dons en ligne. Ou bien encore, adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Superbe, voilà qui est fait. Désormais, chers auditeurs, vous avez éventuellement le droit de partir si vraiment vous avez une obligation, car c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Et autrement, pour ceux que ça intéresse, eh bien, nous parlons des municipales avec Philippe Poirier. Nous lui avons posé cette question, est-ce que tous les partis ont perdu ?
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Poirier, ici à Ligne Droite. Alors, Philippe Poirier, bonjour, nous allons évoquer avec vous cette question des élections municipales. Tous les partis prétendent avoir gagné, mais en fait, on se demande s'ils n'ont pas tous perdu. Alors, on va essayer de dresser un petit portrait durant ces 15 minutes qu'on a ensemble, de faire un petit peu le tour. Déjà, Philippe Poirier, première question. Est-ce que, selon vous, il y a quand même un vainqueur de ces élections municipales?
Le vainqueur de ces élections municipales, ce sont les mouvements et les partis politiques qui ont doublé ou triplé leur présence dans les conseils municipaux. Et il y a en réalité trois types de vainqueurs. Le premier vainqueur, et que personne ne l'a souligné, ce sont les listes divers et divers droites, car ce sont elles qui ont gagné le plus d'élus dimanche dernier. C'était un record et c'est la première fois que les listes dites divers droites sont supérieures en nombre en termes de vainqueurs par rapport aux partis qui structurent la droite, les Républicains et puis le Rassemblement national lui-même. Deuxième élément, le Rassemblement national, et vous vous rappelez, nous avions retrouvé avant le premier tour, a enregistré un score historique, puisque, à mon décompte, il serait à environ à plus de 3200 conseillers municipaux, alors qu'il en avait que 800 en 2020, et il dépasse par fois deux son score historique de 1995. Mais il y a aussi un troisième type de vainqueur, c'est... tout un tas de listes sans la référence partisane, des listes divers. Hein. Et ces listes divers sont très difficilement repérables d'un point de vue sur un axe gauche-droite ou même de savoir ce qu'elles vont faire exactement. Donc, vous voyez, le scrutin municipal du premier et du deuxième tour est beaucoup plus complexe dans son analyse que les dirigeants des partis ont voulu bien le faire.
Alors, la question qui me vient immédiatement suite à votre début d'analyse, c'est que veut dire cette victoire du divers droite? Est-ce que ça signifie qu'il y a une forme de ras-le-bol dans la population de la politisation de ces élections ou des partis politiques actuellement en place? Est-ce que ça signifie aussi que le pays bascule à droite? Quelles conséquences on peut en tirer?
Alors, d'un point de vue des enquêtes sociologiques, qu'elles soient menées par nos collègues du CVPOF ou qu'elles soient nommées au niveau européen, le European Value Study, il y a une droitisation de la société française depuis une petite dizaine d'années sur des thèmes classiques, sur l'autorité, la liberté économique, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité. Mais les listes divers droites montrent surtout quoi ? Que beaucoup d'élus, et surtout des électeurs, ont de moins en moins de rapports, d'obéissance ou de structuration à travers les partis politiques. Les municipales révèlent une nouvelle fois que les partis politiques ne maîtrisent plus l'agenda politique des électeurs et des électrices. Il y a une désaffiliation partisane qui s'amplifie. Alors là, elle se montre désormais au niveau des élus. Beaucoup d'élus ont choisi de partir sous l'étiquette divers droites parce qu'il considère, à juste titre parfois, que c'est un handicap d'être affilié à un parti politique. Et donc, les partis politiques qui auraient réclamé la victoire dimanche dernier en disant « voilà, nous avons, par exemple, les dirigeants du parti Les Républicains » se trompent lourdement. Nous n'avons jamais eu autant de listes autonomes de cette structure-là et des autres partis structurant notamment le centre-droit. C'est ça que ça signifie, la désaffiliation partisane de l'électorat et des élus au niveau local.
Et autre point qui est un petit peu lié, je pense, à celui que vous évoquez, c'est l'abstention qui reste tout de même assez forte dans une élection qui est tout de même réputée pour mobiliser énormément de Français. Est-ce que ça traduit une forme de lassitude, même sur le plan municipal ?
Alors, la démocratie locale était le dernier niveau où, il est vrai, un taux de participation était plutôt élevé, mais cela ne faisait que diminuer depuis déjà le début des années 2000, avec une amplification spécifique avec la période du Covid. Ce taux de participation, qui quand même est très faible, un Français sur deux ne se sont pas déplacés ni au premier ni au second tour. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie trois choses. Premièrement, le processus d'indifférenciation du politique par une large part de la société. Une partie de la société, de nos compatriotes, ne vivent plus, ne s'inscrivent plus dans aucun schéma politique. La deuxième chose, c'est aussi la difficulté de compréhension des nouvelles règles du scrutin. Dans beaucoup de communes, l'absence de panachage a sans doute perturbé beaucoup d'électeurs et d'électrices. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que n'oublions pas que l'abstention a une signification aussi politique, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retrouvés dans l'offre politique présentée par tous les partis, de la droite jusqu'à la gauche, et donc ils sont restés chez eux comme à d'autres scrutins. Donc ça doit interpeller non seulement les élus au niveau de la démocratie locale, mais de manière générale, toutes les formations politiques. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que notre système démocratique s'est surtout développé et, j'allais dire, arc-bouté sur le phénomène communal depuis notamment le début de la Troisième République. Donc c'est une transformation majeure, cette abstention au niveau de la démocratie locale.
Par-delà cette question de l'abstention, revenons un petit peu sur les partis politiques, sur les forces en présence. Évidemment, au niveau du bloc central, de ce qu'on a appelé l'UMPS, on voit qu'il y a quelques villes qui s'intervertissent, mais qu'il n'y a pas de changement structurel. En revanche, vous avez évoqué la percée du Rassemblement National, on pourrait aussi évoquer la montée de la France Insoumise. Sur ces deux partis, la France Insoumise et le Rassemblement National, on a l'impression d'une victoire objective dans le sens où ils font un meilleur score qu'en 2020. D'un autre côté, ce qu'on peut observer aussi, c'est que ce score n'est pas à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire que la France Insoumise espérait réussir à conquérir de grandes villes ou à prendre des places importantes dans certains conseils municipaux. Le Rassemblement National espérait prendre des villes comme Nîmes ou alors Toulon, voire Marseille. Il y a quand même peut-être des déceptions qui sont liées à l'importance de leurs espérances.
Alors, commençons par la France Insoumise. La France Insoumise, à ces élections, n'a pas réussi à mobiliser l'ensemble de son électorat. Donc, une partie des abstentionnistes, ce sont en réalité des électeurs proches de la France Insoumise. Il faut regarder, par exemple, le taux de participation dans les communes où M. Mélenchon était arrivé très en avance à la dernière présidentielle ou même lors de leur candidature aux élections législatives. Donc, ils n'ont pas réussi à mobiliser une partie de leur électorat. La deuxième raison de la France Insoumise, eh bien, c'est son positionnement politique de radicalisation qui a sans doute handicapé le parti auprès d'autres électorats, de d'autres gauches, voire même, ils n'ont plus bénéficié, puisqu'comme ils avaient bénéficié aux législatives, d'une sorte, comme dirait l'avocat Goldaen, une sorte de privilège rouge. C'est terminé ce temps-là. Donc ça doit les interpeller sur leur stratégie, du moins pour les prochains scrutins. Quant au Rassemblement national, bien entendu, Il lui manque en réalité dans son bilan définitif une grande ville. Et il est vrai que Toulon manque à l'appel d'une certaine manière, parce que ça aurait amplifié le très bon résultat qu'il a obtenu. Pour la ville de Nîmes, c'est là le cas classique en réalité, que la ville est retombée dans les mains du Parti communiste français, parce que en réalité, la droite républicaine, enfin, les républicains, ont maintenu le candidat. Et c'est ainsi. Donc nous avons le paradoxe que Nîmes est une ville sans doute beaucoup plus à droite, et très majoritairement, et il y a une perdition. Mais il est vrai que ça doit interpeller les dirigeants du Rassemblement national, même au-delà de ne pas avoir gagné Toulon ou Nîmes, voire Marseille. Ce qui était plus préoccupant pour eux et qui reste, c'est leur très faible score dans les métropoles régionales au premier tour, à Toulouse, à Rennes, à Paris. Bon, il y avait un système de concurrence à Lyon, etc. Donc là, le Rassemblement national a un immense chantier, et d'autant plus dans la perspective des présidentielles, qu'il va falloir sérieusement qu'il travaille les grandes métropoles, ou qu'il trouve du moins des thèmes qui mobilisent ses électorats, qui sont beaucoup plus divers que simplement des électorats, comme on dirait, préoccupés simplement de questions de qualité de vie ou de l'environnement. Oui, c'est cela, mais il y a bien d'autres choses dans les grandes métropoles.
Il nous reste 3 minutes, Philippe Poirier. J'aurais une dernière question qui serait liée à cela. On voit aussi un découpage territorial particulièrement important pour le Rassemblement national, dans le sens où le bassin mosellan, le bassin minier du Nord et le sud-est de la France lui sont très, très favorables. On peut penser aussi à un département comme la Gironde. En revanche, en Corse, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Normandie, ça reste quand même extrêmement faible. Comment est-ce que on peut expliquer que même dans une élection municipale, ils n'y parviennent pas ?
Alors, le seul bon résultat à l'ouest de la France, dans la tradition d'André Siegfried, le fameux tableau de l'ouest de la France, ils ont tout de même gagné la ville de La Flèche, oui, dans la Sarthe. Donc, on voit qu'il y a une avancée dans la Sarthe. Et en Normandie, il y a quand même ici et là des résultats, comme du moins dans l'ancienne Haute-Normandie, il y a quand même des résultats intéressants pour le Rassemblement national. Mais là, dans l'ouest de la France, il se confronte à quoi ? Justement, à la grande présence encore et forte des divers droites. C'est les divers droites qui mènent la danse dans l'ouest. Et d'ailleurs, on ne l'a pas assez remarqué, c'est que les divers droites ont infligé un camouflet historique au Parti socialiste, puisque le Parti socialiste détenait des villes depuis 1977, c'était la grande référence pour la gauche des municipales, et il a perdu la ville de Cherbourg, la ville de Brest, toutes les communes autour de la ville de Brest ont basculé vers les divers droites, Saint-Brieuc a été de nouveau repris par les divers droites, donc là, on voit très bien que les cultures politiques régionales demeurent encore des affiliations, des socialisations politiques qui ont bénéficié cette fois-ci au centre droit, mais surtout à des divers droites. Mais au même moment, si le Rassemblement national ne parvient pas à conquérir beaucoup à l'ouest, les Républicains sont rayés aussi en même temps, quasiment, de l'ouest. Il faut voir le résultat très faible des Républicains dans certaines villes moyennes, alors qu'ils les détenaient ou étaient affiliés. Donc, vous voyez, il y a un phénomène général de recomposition ou de maintien de notabilisation des divers droites dans le Grand Ouest de la France.
Oui, ce qui traduit sans doute dans le fond le remplacement de l'ancien communisme municipal, socialisme municipal, par effectivement une droite municipale. Merci beaucoup Philippe Poirier d'avoir été avec nous ce matin. On vous recevra sans doute dans les semaines à venir, sans doute pour tirer d'autres enseignements de ces élections ou pour aller chercher d'autres thèmes. Merci d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci énormément d'avoir suivi Radio Courtoisie, d'avoir suivi Ligne Droite ce matin. C'était une nouvelle émission que j'ai eu plaisir à animer. Écoutez, on va pas se mentir, on a besoin de vous.
On a besoin de vous, comme toujours, et depuis presque 40 ans. Si vous voulez voir cette belle aventure qu'a Radio Courtoisie perdurer, eh bien, nous comptons sur votre soutien financier. Vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr ou bien encore adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, sachez que Radio Courtoisie est une radio libre, indépendante et qui est d'ailleurs en croissance perpétuelle. Mais c'est simplement grâce à vos dons, grâce à votre générosité. Arnaud, dites-nous un petit peu ce qui suivra aujourd'hui.
Dans un instant, culture et éducation de Sophie Ruberti, il y sera question de femmes inspirées. À midi en direct, le libre journal des entrepreneurs dirigé par Louis Laboca et Hugues Sérapion. À 14h, le libre journal des traditions dirigé par l'abbé Alain Laurence. À 17h, Sursum Corda de l'abbé Mathieu Raffray. 17h30 en direct, Restons Courtois dirigé ce soir par Marc Henault. Émission à suivre également en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. À 19h30, le libre journal de Jacques Trémollet de Villers dirigé par Hilaire de Crémier. Puis toujours en direct à 21h30. Le libre journal des chevaux légers dirigé par Luc Le Garsmeur.
Merci beaucoup pour cette présentation Arnaud. Moi de mon côté je vous dis à demain, émission animée par Richard de Seize, et puis je vous laisse.
À demain.